ou de trafic de drogue ou de viol dans ce pays. Personne, personne. La justice, c'est quelque chose, tout le monde peut le comprendre, c'est quelque chose d'éminemment complexe. Décider si quelqu'un est coupable ou innocent, la question du doute, mais pas n'importe quel doute, un doute raisonnable au fond, parce que il s'agit pas de douter d'un détail et du coup de douter de tout s'il y a d'autres choses. La question de la peine, quelle peine infliger à quelqu'un, voilà qui est compliqué. Toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, ont été jurées dans une cour d'assises, se sont bien rendues compte que juger, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce que certains veulent bien dire. Et c'est vrai que si, face à cette complexité-là, extrême, parce que vous avez effectivement la souffrance de la victime d'un côté, et puis parce que vous avez de l'autre, un être humain, qu'on le veuille ou non, hein, parce que certains parlent de monstres, et évidemment, à l'Institut pour la Justice, on parle facilement de monstres, et le président de la République parle facilement de monstres, mais on parle d'êtres humains qui ont leur parcours, qui ont eu eux-mêmes leurs difficultés, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est compliqué, c'est gris. Par définition, avec la justice, on est dans le gris. Et si face à cette complexité-là, vous arrivez avec votre bulldozer émotionnel, c'est-à-dire que vous mettez en avant une souffrance qui est réelle, que personne ne conteste et ne contestera jamais, et que vous dites que ça vous suffit comme argument, que ça vous tient lieu d'argument, bon bah, il n'y a pas de discussion possible. Hein, si on va sur le terrain de l'identification, n'oublions pas qu'on peut aussi s'identifier à des gens qui ont été broyés par la machine judiciaire. Mais oui, on peut prendre de la souffrance produite par la répression. Hein, et on peut la mettre en scène, cette souffrance-là. Moi, demain, je peux aussi faire une vidéo tire-larme en partant du cas de quelqu'un qui était incarcéré à tort pendant des années. Ça, on n'en parle pas à l'Institut pour la Justice de ça. On demande l'incarcération. Mais on oublie l'affaire Doutreau, par exemple. On oublie les vies brisées de l'affaire Doutreau. Mais on peut jouer sur ce ressort-là aussi.
À 6h du matin, on sonne chez vous, on tape dans la porte et moi, je me réveille brutalement, brusquement.
Là-bas, si j'y suis.
Et là, j'aperçois à la porte d'entrée... Et...
10 septembre 2004.
4 policiers avec brassard police. Et là, ça a été pour me dire que j'étais impliqué dans une affaire de pédophilie et que si j'avais déjà entendu parler de l'affaire de pédophilie d'Outreau et que j'étais impliqué dedans.
C'est le 16 mai 2002 que c'est la dernière fois que j'ai vu mon gamin. Il m'a vu partir avec le monsieur, bon j'avais pas de menottes, rien. Mais il m'a regardé, il m'a dit « Papa, tu vas où ?» J'ai regardé mon gamin, je lui ai dit « Papa, il revient dans une heure » et je l'ai revu 2 ans après. Moi, comme je dis, ils m'ont pris pour de la merde, ils m'ont pris pour de la merde, quoi. Moi, j'étais en prison comme un vulgaire chien, quoi. C'est tout.
Nous voilà dans le cabinet de Maître Eolas. Maître Eolas, vous êtes très connu parce que vous avez énormément de lecteurs et d'abonnés à votre blog juridique. Vous êtes très connu, mais néanmoins agissant sous un pseudonyme. Mais on peut dire quand même que vous êtes un avocat. Et je sais, par ailleurs, que vous-même, vous êtes opposé, au moins à 2 reprises, à certains des arguments du pacte 2012 de nos amis de l'Institut pour la Justice. Qu'est-ce que vous avez donc contre eux, Maître Eolas ?
Mais contre eux, personnellement, rien. C'est plutôt eux qui ont quelque chose contre moi, puisqu'ils ont décidé de me faire un procès en diffamation pour avoir émis des doutes sur la fiabilité de leur compteur de signature, alors que moi, je n'ai intenté aucune action contre eux. Je ne fais que répondre à leurs arguments. Encore, argument, c'est un bien grand mot. C'est ça, précisément, que je leur reproche. C'est de ne pas argumenter, mais c'est de jouer sur la fibre de l'émotion, d'utiliser des techniques qui relèvent de la manipulation pure et simple.
Manipulation, vous dites.
Manipulation, c'est le mot que j'emploie, et je n'ai pas été poursuivi pour ce mot, d'ailleurs. Enfin, peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne, d'ailleurs. Pourquoi parlais-je de manipulation ? Parce que leur principal succès à ce jour, c'est l'appel qu'ils appellent le pacte 2012, qui a été fait en mettant en avant la parole du père d'une victime, Joël Sancier, dont le fils a été assassiné en août 2009. Et évidemment, bon, c'est le chagrin d'un père qui ne peut que bouleverser tous ceux qui l'entendent, c'est tout à fait normal. Et ensuite, pendant qu'on est encore sous l'émotion, ce père appelle à signer la pétition de l'Institut pour la Justice et de promouvoir le pacte 2012, c'est-à-dire des mesures juridiques qu'ils veulent imposer aux candidats. Alors que si on regarde un peu les faits de cette affaire, ça n'a rien à voir avec les propositions de l'Institut pour la Justice. C'est-à-dire que si toutes les propositions de l'Institut pour la Justice avaient été en vigueur en 2009, ça n'aurait rien changé à ce qui s'est passé. Donc on prend un argument émotionnel pour désarmer la raison, pour empêcher la réflexion, Et en fait, pour laisser entendre, si ce père vous émeut, vous devez signer. Et si vous ne signez pas, c'est que vous êtes un monstre insensible à la souffrance de ce père. Alors évidemment, là-dessus, beaucoup de gens ont eu le réflexe de signer. En plus, qu'est-ce qu'une signature en ligne ? C'est un clic, c'est quelques lignes à remplir.
1 700 000 signataires d'après l'Institut pour la Justice.
Voilà, d'après le compteur de l'Institut pour la Justice plus précisément. Et c'est ce doute-là que j'émettais publiquement pour mon plus grand malheur, puisque désormais...